Chapitre 145, les méditations de Monsieur Jacqual. Dût-on traiter notre opinion de paradoxale, nous affirmons que le meilleur gouvernement est celui où l'on pourra se passer de ministre. Les hommes de notre âge qui ont assisté aux luttes politiques, aux intrigues ministérielles de la fin de l'année 1827, pour peu qu'ils aient gardé mémoire des derniers soupirs de la Restauration, partageront notre opinion, nous n'en doutons pas. En effet, après le ministère provisoire où étaient entrés M. le maréchal de La Motte-Houdan et M. de Marande, le roi avait chargé M. de Chabrol de composer un ministère définitif. En voyant annoncer dans les journaux du 26 décembre que M. de Chabrol partait pour la Bretagne, tout le monde crut que le cabinet était constitué et on attendit avec anxiété l'insertion de cette nouvelle au moniteur. Nous disons avec anxiété, car depuis les émeutes des 19 et 20 novembre, tout Paris était resté plongé dans la stupeur, et la chute du ministère Villèle, qui donnait satisfaction à la haine publique, ne faisait cependant ni oublier le passé, ni présager un meilleur avenir. Tous les partis s'agitaient, et il venait d'en sourdre un nouveau qui criait de loin au duc d'Orléans d'être le tuteur de la France et de sauver ainsi la royauté d'un danger imminent. Mais en vain cherchera-t-on la nouvelle dans le Moniteur du 27, du 28, du 29, du 30 et du 31 décembre. Le Moniteur était muet, il semblait endormi comme la belle au bois dormant. On espérait qu'il allait se réveiller le 1er janvier 1828, il n'en fut rien. On apprit seulement que Charles X, irrité contre les royalistes qui avaient précipité la chute de M. de Villèle, avait rayé les uns après les autres les noms de tous les candidats au ministère que M. de Chabrol lui avait présentés, entre autres, pour n'en citer que deux, messieurs de Chateaubriand et de la Bourdonnais. D'un autre côté, les hommes politiques qu'on appelait à faire partie du nouveau cabinet, connaissant l'ascendant que M. de Villèle exerçait encore sur l'esprit du roi, et ne se souciant pas, tout en héritant de l'animadversion qu'avait laissé derrière lui le président du conseil, de jouer le rôle d'homme de paille, refusèrent absolument d'entrer dans une pareille combinaison. De là, tous les embarras de M. de Chabrol, et voilà pourquoi, chers lecteurs, nous vous demandons la permission de vous dire, tant qu'il y aura des ministres, il n'y aura pas de bon ministère. Enfin, le 2 janvier, expectaia dies, on annonça que la montagne était grosse, en d'autres termes que M. de Chabrol était parvenu à composer son ministère. La crise dura 2 jours, le 3 et le 4, une crise terrible, en jugée par l'expression de désespoir dont la figure des courtisans était empreinte. Dans la soirée du 4, le bruit transpira que le nouveau ministère présenté par M. de Chabrol était définitivement agréé par le roi. En effet, le Moniteur du 5 janvier publiait une ordonnance datée du 4, dont l'article 1er contenait les nominations suivantes. M. Portalis au ministère de la Justice, M. de La Ferronnays au ministère des Affaires étrangères, M. de Caux au ministère de l'Administration de la Guerre, la présentation aux emplois vacants dans l'armée étant réservée au dauphin, M. de Martignac au ministère de l'Intérieur, dont on retranchait les attributions relatives au commerce et aux manufactures, qui devenaient une annexe au bureau du commerce et des colonies. M. de Saint-Cricq, à la présidence du Conseil supérieur du commerce et des colonies, avec le titre de secrétaire d'État, M. Roy, au ministère des Finances, etc. Ce ministère, qui avait surtout pour but de calmer les esprits, ne fit que jeter la défiance et la crainte dans tous les partis. En effet, ce n'était qu'un replâtrage, une ombre du ministère précédent. Messieurs de Villèle, Corbière, Perronnet, de Damas et de Clermont-Tonnerre quittaient la partie, sans doute, mais messieurs de Martignac, de Caux et de La Ferronnays, ayant appartenu à l'administration, l'un comme conseiller d'État, l'autre comme directeur d'un des services du ministère de la Guerre, le troisième comme ambassadeur à Saint-Pétersbourg, étaient loin d'être des hommes nouveaux, et semblait ne se trouver là qu'en attendant le moment favorable où M. de Villèle put reprendre la direction officielle. il manque d'une raison suffisante pour exister, disaient les libéraux, il n'est pas né viable. On essaya de satisfaire les mécontents en destituant le préfet de police, M. de Lavaux, et en le remplaçant par M. de Bellême, procureur du roi à Paris. On alla même jusqu'à supprimer la police générale au ministère de l'Intérieur, ce qui entraîna la retraite de M. de Franchet. Mais cette double satisfaction, impérieusement exigée et qu'on donnait à l'opinion publique, ne fit pas ajouter foi à la force et à la durée du nouveau ministère. Un des hommes qui avait été les plus attentifs aux tâtonnements, hésitations et embarras de Sa Majesté Charles X et de M. Chabrol était M. Jacqual. M. de Lavaux destitué, M. Jacqual devait nécessairement suivre son patron dans la retraite. Bien que le rôle qu'il jouait à la préfecture de police fût sans signification positive et sans conséquences sérieuses pour la nouvelle marche politique que le gouvernement comptait suivre, en lisant dans le Moniteur l'ordonnance qui conférait à M. de Bellême l'administration de la préfecture de police, M. Jacqual laissa retomber mélancoliquement sa tête sur sa poitrine et médita profondément sur la vanité des choses humaines. Il en était là, plongé dans cette méditation, quand un huissier vint lui annoncer que le nouveau préfet, installé depuis une heure, le priait de passer dans son cabinet. M. de Bellême, homme d'esprit s'il en fut, il l'a bien prouvé depuis en inventant le référé. M. de Bellême, profond jurisconsulte et aussi profond philosophe, n'eut pas longtemps à causer avec M. Jacqual pour savoir à quel homme il avait affaire. Et s'il fit mine un moment de le déshériter de ses fonctions, ce fut moins pour lui faire peur que pour s'assurer à jamais sa fidélité. Il le connaissait depuis longtemps, et il savait quel trésor de ressources était enfoui dans ce cerveau fécond. Il ne mit qu'une condition au maintien de M. Jacqual, il le supplia de remplir ses fonctions en gentilhomme et en homme d'esprit. « Le jour, lui dit-il, où ceux qui administrent la police auront de l'esprit, il n'y aura plus de voleurs en France. Et le jour où la police ne fera plus de barricades, il n'y aura plus d'émeutes à Paris. » Ici, M. Jacqual, comprenant parfaitement que le nouveau préfet faisait allusion aux émeutes du mois de novembre organisées par lui, M. Jacqual baissa la tête et rougit pudiquement. « Ce que je vous recommande avant tout, continua M. de Bellême, c'est de faire disparaître au plus vite et de reconduire au bagne d'où ils viennent ces êtres patibulaires qui émaillent la cour de l'hôtel. Car s'il est nécessaire pour faire un civet de prendre un lièvre, on ne me prouvera jamais la nécessité de prendre des forçats pour arrêter les voleurs. Je conviens avec vous que le moyen est spécieux, mais il n'est pas infaillible et je le crois dangereux. » « Je vous prie de faire un choix au plus vite parmi les hommes qui sont sous vos ordres et de les renvoyer sans bruit d'où ils viennent. » M. Jacqual adhéra pleinement à la proposition du nouveau préfet et, après l'avoir assuré de son zèle et de son dévouement, il le salua en s'inclinant respectueusement et se retira. Rentré dans son cabinet, il se plongea dans son fauteuil, essuya les deux verres de ses lunettes, tira sa tabatière et se bourra le nez de tabac. Puis, croisant à la fois ses jambes et ses bras, il médita de nouveau. Disons tout de suite que ce second sujet de méditation fut bien plus agréable pour lui que le premier, quelque chagrinante qu'en pussent être les conséquences pour son prochain. En effet, voici ce à quoi il pensait. Décidément, j'avais bien jugé le nouveau préfet. C'est positivement un homme profond. La preuve, c'est qu'il m'a gardé, quoi qu'il soit bien loin d'ignorer que j'ai quelque peu contribué à déterminer la chute du ministère. Après tout, c'est peut-être pour cela. Me voilà donc de nouveau sur mes pieds, puisque par la suppression de la police au ministère de l'Intérieur et la retraite de M. Franchet, j'acquiers une plus haute importance. D'autre part, il est presque entré dans mes vues à l'endroit des honorables personnages dont la cour de la préfecture est quotidiennement jonchée. Ah, s'il est vrai que je vais causer de la peine à ces honnêtes gens, pauvre Carmagnole, pauvre Papillon, pauvre Longavoine, pauvre Brin d'Acier, ah, pauvre Gibassier surtout, c'est toi que je plains parmi les autres. Ah, tu vas m'afficher ingrat, mais que veux-tu? Abente soit fatal libelli, c'était écrit. En d'autres termes, il n'est si bonne compagnie qu'il ne faille à la fin quitter. En disant ces derniers mots, M. Jacqual, pour comprimer l'émotion que lui donnaient ses tristes pensées, tira de nouveau sa tabatière et absorba, avec une sorte de violence, une seconde prise de tabac. « Ben, après tout, dit-il philosophiquement en se levant, le faquin n'a que ce qu'il mérite. Ah, je sais bien qu'il me demandait hier mon agrément pour se marier, mais... jamais Gibassier ne sera un homme de pot-au-feu, il est fait pour les grandes routes, et je crois que celle de Paris à Toulon conviendra mieux à sa nature que le grand chemin de l'Hyménée. Comment va-t-il accepter cette nouvelle position ?» Tout en faisant ses réflexions, M. Jacqual tira un cordon de sonnette. Un huissier parut. « Qu'on me fasse venir Gibassier, dit-il, et s'il n'est pas là, Papillon, Carmagnole, Longavoine ou Brin d'Acier. » L'huissier est parti, M. Jacqual fit jouer un bouton de sonnette placé presque invisiblement dans l'angle du mur. Un instant après, un agent de police à la figure rébarbative, habillé en bourgeois, apparut sur le seuil d'une petite porte dissimulée par une draperie. « Entrez, colombier, dit M. Jacqual. » L'homme à mine farouche qui portait ce doux nom s'avança. « De combien d'hommes pouvez-vous disposer en ce moment ?» demanda M. Jacqual. « De 8 hommes, répondit Colombier. « Vous compris ?»« Sans me compter, en tout 9. »« Solide ?»« Comme moi-même, répondit d'une voix de basse-taille effrayante Colombier, qui devait être en effet d'une force et d'une énergie peu communes, s'il est permis de juger de la force du corps par la force de la voix. « Vous allez les faire monter, continua M. Jacqual, et vous vous tiendrez tous les 9 dans le corridor derrière ma porte. » Armés, bien armés. Au premier coup de sonnette, vous entrerez ici sans frapper, et vous inviterez l'homme qui se trouvera dans mon cabinet à vous suivre. Une fois votre prisonnier dans le corridor, vous le confierez à 4 de vos hommes qui le conduiront au dépôt. Le prisonnier, une fois en lieu sûr, vos hommes remonteront et reviendront prendre leur place dans le corridor jusqu'au moment où un second coup de sonnette vous appellera de nouveau pour une autre arrestation, et ainsi de suite jusqu'à ce que je vous donne contre-ordre. Vous m'aviez bien compris, n'est-ce pas ? Parfaitement, répondit Colombier, parfaitement, répéta-t-il, en se rengorgeant comme un homme fier d'avoir la compréhension si facile. Maintenant, dit sévèrement M. Jacqual, c'est à vous que je m'en prendrai si un seul des prisonniers s'échappe. À ce moment, on frappa à la porte du cabinet. Ah, c'est sans doute un de vos futurs prisonniers qui va entrer. Hâtez-vous d'aller chercher vos hommes. J'y cours, dit Colombier en franchissant d'une seule enjambée l'espace qui le séparait du corridor. Monsieur Jacqual fit tomber la tapisserie derrière lui, s'accommoda dans son fauteuil et dit « Entrez !» L'huissier introduisit Longavoine.